From the conference center at...
Ici le centre de conférence Temple Square, Salt Lake City. Vous assistez à la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de la primaire de Caseville et de Fruit Heights en Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Henry B. Eyring,
premier conseiller de la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you.
Nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 178e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé à moi, Frère Eyring, de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet, et aux nombreuses autres personnes qui sont réunies dans les centres de pieux, dans diverses parties du monde, où la réunion est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la primaire de Caseville et de Fruit Heights, en Utah, sous la direction de Colleen Paddock, avec Linda Margetts à l'orgue. Le chœur va ouvrir cette session en chantant « Je suis enfant de Dieu ». James D. Dunn, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you.
Our Heavenly Father,
notre Père céleste, en ces temps de confusion et d'incertitude, nous sommes reconnaissants de pouvoir être assis dans la présence d'apôtres et de prophètes qui puissent nous parler avec autorité. Nous sommes reconnaissants d'avoir des véritables concepts de qui tu es et de qui est ton Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour l'Esprit que ce cœur vient d'apporter pour cette réunion. Nous sommes reconnaissants pour les enfants du monde entier et pour l'avenir qu'ils ont. Aide-nous, Père Céleste, à les bénir, à les enseigner et à les protéger. Nous te prions, Père, pour que pendant le déroulement de cette réunion, nous puissions sentir ta présence et que nous puissions savoir connaître la vérité. Nous te remercions, Père Céleste, du fait que nous soyons frères et sœurs à travers le monde entier et que nous sachions être tes enfants et que tu aimes tous tes enfants. Puissions-nous nous en souvenir toujours et essayer davantage de nous aimer les uns les autres. Nous prions que tu puisses être avec tous ceux qui vont participer à cette session, les orateurs pour la musique. Puisses-tu calmer leur cœur et les aider à nous parler depuis le tréfonds de leur âme, que nous puissions comprendre ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Le président Monson m'a demandé de vous présenter maintenant les autorités générales, les 70 interrégions et les présidences générales et auxiliaires pour un vote de soutien. Le chœur chantera ensuite la clarté de Dieu. Après ce chant, Joseph B. Worthlin et Jeffrey R. Holland du Collège des 12 apôtres nous adresseront la parole. Il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Henry Binion Haring comme premier conseiller dans la première présidence, et Dieter Friedrich Urdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Pecker comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Pecker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, et D. Todd Christopherson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers de la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Il nous est proposé de relever Earl C. Tingey comme membre de la présidence des collèges 70 et Earl C. Tingey et Sheldon M. Stahl comme membres du premier collège des 70 et de les désigner comme autorités générales émérites. Il nous est également proposé de relever Gerald L. Lund et Robert R. Stewart comme membres du deuxième collège 70. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ses frères pour leur excellent service, le manifeste. Il est proposé que Jorge A. Rojas et Telamas Light soient relevés comme 70 interrégions à partir du 1er novembre 2008. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service se manifestent. Il nous est proposé de soutenir Jay Jensen comme membre de la présidence des collèges des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Des avis contraires par le Messine. S'il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et président général d'auxiliaires actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime. Merci, mes frères et sœurs, de votre vote de soutien, de votre foi, de votre dévouement et de vos prières.
When I was young,
lorsque j'étais jeune, j'aimais faire du sport. Et j'en ai beaucoup de bons souvenirs. Mais tous ne sont pas agréables. Je me souviens qu'un jour, mon équipe de football américain a perdu un match difficile. Je suis rentré chez moi découragé. Ma mère était là. Elle a écouté ma triste histoire. Elle enseignait à ses enfants à croire en eux, à se faire confiance les uns aux autres, à ne pas tenir les autres pour responsables de leur malheur et à faire de leur mieux dans tout ce qu'ils entreprenaient. Lorsque nous tombions, elle attendait de nous que nous relevions et que nous repartions. Le conseil qu'elle m'a donné alors ne m'a donc pas entièrement surpris. Je m'en suis souvenu toute ma vie. Elle m'a dit, « Joseph, prends les choses comme elles viennent et aime-les. » J'ai souvent réfléchi à ce conseil. Je pense qu'elle a peut-être voulu dire qu'il y a toujours des hauts et des bas dans la vie et des moments où les oiseaux semblent ne pas chanter ni les cloches résonner. Pourtant, en dépit du découragement et de l'adversité, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont l'art de tirer les leçons des moments difficiles, devenant ainsi plus fortes, plus sages et plus heureuses. Certaines personnes pourraient croire que les autorités générales éprouvent rarement de la peine, de la souffrance et du chagrin, si seulement c'était vrai. Tous les hommes et toutes les femmes présents sur cette estrade ont connu une abondante mesure de joie, mais chacun aussi bu abondamment à la coupe de la déception, de la tristesse et de la séparation. Dans sa sagesse, le Seigneur n'épargne à personne la douleur ou la tristesse. Pour ma part, le Seigneur a ouvert les écluses des cieux, et je n'ai pas les mots pour exprimer les bénédictions qu'il a déversées sur ma famille et moi. Pourtant, comme tout le monde, il y a eu des moments dans ma vie où mon cœur était si lourd qu'il me semblait que je ne pourrais le supporter. À ces moments, je repense cette période tendre de ma jeunesse, quand les grandes tristesses étaient dues à la perte d'un match de football. J'étais alors loin de me douter de ce qui m'attendait dans les années à venir, mais chaque fois que je traversais des moments de tristesse et de chagrin, les paroles de ma mère me revenaient souvent. Prends les choses comme elles viennent et aime-les. Comment pouvons-nous aimer les jours, des jours qui sont remplis de tristesse? Nous ne pouvons pas, du moins pas sur le moment même. Je ne pense pas que ma mère nous conseillait de refouler le découragement ou de nier la réalité de la souffrance. Je ne pense pas qu'elle nous conseillait d'étouffer les vérités désagréables sous un simulacre de bonheur. Ce que je crois, c'est que notre façon de réagir face à l'adversité peut être un facteur majeur de bonheur et de réussite dans la vie. Si nous abordons l'adversité avec sagesse, nos moments les plus difficiles peuvent être des moments de très grande progression, qui, à leur tour, peuvent nous conduire à des moments de grand bonheur. Au fil des années, j'ai appris différentes choses qui m'ont aidé pendant les moments d'épreuve. C'est de cela que je voudrais vous parler. La première chose que nous pouvons faire, c'est apprendre à rire. Est-ce que vous avez déjà vu un automobiliste en colère qui, lorsque quelqu'un d'autre fait une erreur, réagit comme si cette personne avait porté atteinte à son honneur, à sa famille, à son chien, à tous ses ancêtres, jusqu'à Adam? Ou avez-vous déjà rencontré une porte de placard suspendue, laissée ouverte au mauvais endroit et au mauvais moment, sur laquelle se venge une victime à la tête endolorie après l'avoir maudite et condamnée? Dans ces cas-là, il y a un antidote. Apprenez à rire. Je me souviens d'avoir chargé nos enfants dans un break et d'être parti pour Los Angeles. Nous étions au moins 9 dans la voiture et nous ne faisions que de nous perdre. Au lieu de nous mettre en colère, nous nous mettions à rire. Chaque fois que nous trompions de chemin, nous rions de plus belle. Il n'était pas rare que nous perdions. Un jour, nous avons pris un mauvais chemin pour aller dans le sud, à Cedar City. Et nous nous sommes aperçus que 2 heures plus tard, lorsque nous avons vu les panneaux « Bienvenue au Nevada », nous ne nous sommes pas mis en colère. Nous rions, et la colère et le ressentiment étaient donc rares. Nos éclats de rire sont devenus des souvenirs précieux. Je me souviens quand notre fille a eu un rendez-vous arrangé avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle s'était mise sur son 31 et attendait cette personne quand on a sonné à la porte. L'homme qui est entré semblait un peu vieux, mais elle a essayé d'être polie. Elle nous l'a présenté à ma femme et aux autres enfants, et à moi, puis elle a mis son manteau et elle est sortie. Nous l'avons regardée monter dans la voiture, mais celle-ci n'a pas démarré. Finalement, notre fille est ressortie toute rouge de la voiture et est rentrée en courant. L'homme qu'elle avait pensé être son cavalier était en fait venu chercher une autre de nos filles qui avait accepté de garder les enfants de sa femme et lui. Nous avons tous bien ri. En fait, nous n'arrivions pas à nous arrêter de rire. Plus tard, quand le vrai cavalier de notre fille est arrivé, je n'ai pas pu aller le rencontrer. J'étais toujours dans la cuisine. Maintenant, je me rends compte que notre fille aurait pu se sentir humiliée, embarrassée. Mais elle a ri avec nous et nous en rions donc toujours aujourd'hui. La prochaine fois que vous êtes tenté de grogner, essayez de rire à la place. Cela prolongera votre vie et rendra la vie des personnes qui vous entourent plus agréable. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est rechercher ce qui est éternel. Vous allez peut-être avoir le sentiment que le sort s'acharne sur vous lorsque l'adversité frappe à votre porte. Vous secouez la tête et vous demandez « Pourquoi moi ?» Mais l'aiguille de la roue du chagrin finit par s'arrêter sur chacun de nous. Un jour ou l'autre, tout le monde doit connaître le chagrin. Personne n'en est exempt. J'aime les Écritures car elles montrent des exemples d'hommes et de femmes, nobles et grands, par exemple Abraham, Sarah, Enoch, Moïse, Joseph, Emma et Brigham. Ils ont tous connu une adversité, un chagrin, qui ont éprouvé, fortifié, raffiné leur personnalité. Apprendre à supporter les moments de déception, de souffrance et de tristesse fait partie de notre apprentissage sur le tas. Bien que difficile à supporter sur le moment, ces expériences sont précisément celles qui augmentent notre compréhension, forgent notre personnalité et augmentent notre compassion envers les autres. Parce qu'il a beaucoup souffert, Jésus-Christ comprend notre souffrance. Il comprend notre chagrin. Nous passons donc par des expériences difficiles afin que nous aussi, nous ayons plus de compassion et de compréhension envers autrui. Souvenez-vous des paroles sublimes du Sauveur à Joseph Smith, le prophète. Quand il souffrait avec ses compagnons dans les ténèbres étouffantes de la prison de Liberty, « Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut. Tu triompheras de tous tes ennemis. » Cette vision éternelle a permis à Joseph d'être réconforté par ses paroles. Et cela peut également être vrai pour nous. Parfois, ce sont précisément les moments qui semblent nous accabler de souffrance qui nous permettent finalement de vaincre. La troisième chose que nous pouvons faire, c'est comprendre le principe de la compensation. Le Seigneur compense toutes les pertes des fidèles. Ce qui est pris à ceux qui aiment le Seigneur leur sera ajouté à sa manière. Ce ne sera peut-être pas au moment où ils le veulent, mais les fidèles sauront que chaque larme d'aujourd'hui sera finalement rendue au centuple par des larmes de joie et de reconnaissance. L'une des bénédictions de l'Évangile est la connaissance que la vie continue au-delà du voile, même quand le rideau de la mort marque la vie, la fin de notre vie sur terre. De nouvelles possibilités nous y seront données. La mort elle-même ne peut nous priver des bénédictions éternelles promises par un Père céleste aimant. Puisque notre Père céleste est miséricordieux, le principe de compensation prévaut. J'ai vu cela dans ma vie. Mon petit-fils Joseph est autiste. Sa mère et son père ont été catastrophés quand ils se sont rendus compte des implications de cette affliction. Ils savaient que Joseph ne serait probablement jamais comme les autres enfants. Ils comprenaient ce que cela signifierait, non seulement pour Joseph, mais aussi pour toute la famille. Mais quelle joie il est pour nous. Les enfants autistes ont souvent du mal à montrer leurs émotions. Mais chaque fois que je suis avec lui, Joseph me serre fort dans ses bras. Il y a eu des difficultés, mais il a rempli notre vie de joie. Ses parents l'ont incité à faire du sport. Quand il a commencé à jouer au baseball, il recevait la balle dans le champ extérieur, mais je ne crois pas qu'il saisissait qu'il fallait courir après les balles perdues. Il a pensé à une autre façon, beaucoup plus efficace de jouer. Lorsqu'une balle arrivait dans sa direction, Joseph la regardait passer, puis tirait une autre balle de sa poche pour la lancer dans la direction du lanceur. Toutes les doutes que sa famille a pu avoir en élevant Joseph, tous les sacrifices qu'elle a pu faire ont été compensés au centuple. Grâce à cet esprit de choix, sa mère et son père ont beaucoup appris sur les enfants handicapés. Ils ont été les témoins directs de la générosité et de la compassion de membres de la famille, de voisins et d'amis. Ils se sont réjouis ensemble en voyant les progrès de Joseph. Ils se sont émerveillés de sa bonté. La quatrième chose que nous pouvons faire est de mettre notre confiance en notre Père Céleste et en son Fils Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Seigneur Jésus-Christ est notre partenaire, notre soutien, notre avocat. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous réussissions. Si nous faisons notre part, il intervient. Lui qui est descendu au-dessus de tout viendra à notre secours, il nous réconfortera et nous soutiendra. Il nous fortifiera notre faiblesse et notre détresse. Et il rendra fortes les choses faibles. Après avoir donné naissance à un bébé, l'une de nos filles est tombée gravement malade. Nous avons prié pour elle, nous l'avons bénie et nous l'avons soutenue du mieux que nous pouvions. Nous espérions qu'elle aurait la bénédiction de guérir, mais les jours se sont transformés en mois et les mois en années. À un moment donné, je lui ai dit qu'elle devrait peut-être avoir cette affliction pour le reste de sa vie. Je me souviens qu'un jour, j'ai pris une petite carte que j'ai mise dans ma machine à écrire. Et je lui ai écrit entre autres, « Le secret est simple. Mets ta confiance en Dieu. Fais de ton mieux et laisse-lui le reste. » Elle a effectivement mis sa confiance en Dieu, mais son affliction n'a pas disparu. Elle a souffert pendant des années, mais en temps voulu, le Seigneur l'a bénie et elle a finalement retrouvé la santé. Connaissant ma fille, je crois que même s'il n'avait jamais été soulagé, elle aurait fait confiance à son Père Céleste et lui aurait laissé le reste. Cela fait longtemps que ma mère s'en est allée à sa récompense éternelle, mais ses paroles ne m'ont pas quitté. Je me souviens toujours du conseil qu'elle m'a donné, il y a bien longtemps, le jour où mon équipe a perdu un match de football. Prends les choses comme elles viennent et aime-les. Je sais pourquoi il doit y avoir une opposition à toutes choses. Si nous réagissons correctement, l'adversité peut être une bénédiction pour nous. Nous pouvons apprendre à l'aimer. Si nous recherchons le côté humoristique des situations, essayons d'avoir une vision éternelle, comprenons le principe de la compensation et nous rapprochons notre Père Céleste, nous pouvons supporter les difficultés et les épreuves. Nous pouvons dire comme ma mère, « Prends les choses comme elles viennent et aime-les. » J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church.
En tant qu'autorité générale de l'Église.
There is no man more beloved.
Il n'y a pas d'homme plus aimé que Joseph B. Wirthlin. Nous ne louons pour vivre les sermons qu'il prêche. Lorsqu'Adam et Ève sont entrés de plein gré dans la condition mortelle, il savait que le monde céleste comprendrait des épines, des ronces et toutes sortes de problèmes. Cependant, le plus dur n'a peut-être pas été de penser aux épreuves et aux dangers qu'ils rencontreraient, mais de se rendre compte qu'ils seraient maintenant loin de Dieu, séparés de celui avec qui ils avaient marché et parlé, qui leur avait donné des conseils face à face. Comme l'indique le récit de la création, après ce choix conscient, ils ne le virent pas car ils étaient exclus de sa présence. Parmi toutes leurs inquiétudes, celle-ci a vraiment dû être la plus grande. Mais Dieu connaissait les difficultés qu'il rencontrerait et il savait incontestablement à quel point il se sentirait parfois seul et perdu. Il a donc constamment veillé sur sa famille mortelle grandissante, a toujours écouté ses prières et a envoyé des prophètes et plus tard des apôtres pour l'instruire, la conseiller et la guider. Quand ses enfants en avaient particulièrement besoin, il a également envoyé des anges, des messagers divins pour les bénir et les rassurer, en leur montrant que les cieux étaient toujours très près et que son aide était toujours très proche. En effet, peu après qu'Adam et Ève se sont retrouvés dans le monde morne et désolé, un ange leur est apparu. Elle leur a enseigné la signification de leur sacrifice et du rôle expiatoire du Rédempteur promis qui devait venir. À l'approche de la venue de ce Sauveur, un ange a été envoyé annoncer à Marie qu'elle allait être la mère du Fils de Dieu. Une armée d'anges a alors été chargée de chanter la nuit où l'enfant Jésus est né. Peu après, un ange annonçait à Joseph que le nouveau-né était en danger et que cette petite famille devait fuir en Égypte pour sa sécurité. Une fois le danger écarté, un ange a transmis cette nouvelle à la famille et ses trois membres sont retournés au pays de leur héritage. Depuis le commencement et pendant toutes les dispensations, Dieu a utilisé des anges comme émissaires pour exprimer son amour et son souci pour ses enfants. Le temps ne me permet pas ici de faire ne serait-ce qu'un examen rapide des Écritures ou de notre propre histoire des derniers jours qui contiennent de très nombreux récits au sujet d'anges servant des personnes sur terre. Mais ce point de doctrine est riche et les cas sont nombreux. Habituellement, ces êtres ne sont pas vus. Parfois, ils le sont. Mais visibles ou invisibles, ils sont toujours prêts. Parfois, leur tâche est grandiose et a une importance pour le monde entier. Parfois, les messages sont plus personnels. Il arrive qu'un ange soit là pour avertir. Mais la plupart du temps, son but est de réconforter, d'apporter une attention miséricordieuse et des conseils dans des moments difficiles. Quand dans son rêve, Lehi s'est retrouvé dans un endroit effrayant, un désert sombre et désolé, comme il l'a décrit, il a rencontré un ange, un homme vêtu d'un vêtement blanc. Lehi explique, « Il me parla et m'invita à le suivre. » Lehi l'a effectivement suivi jusqu'à un endroit sûr, et finalement, jusqu'au chemin du salut. Au cours de notre vie, nous passons tous par des endroits sombres et désolés, des situations de chagrin, de peur ou de découragement. Nous vivons à une époque de détresse mondiale concernant les crises financières, les problèmes d'énergie, les attentats terroristes et les catastrophes naturelles. Cela se traduit par des inquiétudes individuelles et familiales, non seulement au sujet du logement et de la nourriture disponible, mais aussi, au bout du compte, de la sécurité et du bien-être de nos enfants et des prophéties des derniers jours concernant notre planète. Des questions plus graves encore, qui sont parfois liées, concernent la déchéance éthique, morale et spirituelle que l'on voit dans des populations grandes et petites, chez nous, et à l'étranger. Mais je témoigne que des anges sont encore envoyés pour nous aider, comme ils l'ont été pour aider Adam et Ève, pour aider les prophètes, et même pour aider le Sauveur du monde lui-même. Dans son évangile, Matthieu écrit qu'après que Satan eut tenté le Christ dans le désert, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Même le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même, a eu besoin de réconfort céleste pendant son séjour dans la condition mortelle. Et donc, les justes bénéficieront de tels services jusqu'à la fin des temps. Comme Mormon l'a dit à son fils Moroni, qui serait lui-même un ange un jour, le jour des miracles a-t-il cessé? Ou les anges ont-ils cessé d'apparaître aux enfants des hommes? Ou leur a-t-il refusé le pouvoir du Saint-Esprit? ou le fera-t-il aussi longtemps que le temps durera, ou que la terre demeurera, ou qu'il y aura à la surface de la terre un seul homme à sauver? Voici, je vous dis que non. Car c'est par la foi que les anges apparaissent aux hommes et les servent. Car voici, ils sont soumis au Christ pour servir selon la parole de son commandement, se montrer à ceux qui ont la foi forte et l'esprit ferme dans toutes les formes de la piété. Je demande à toutes les personnes qui peuvent m'entendre de prendre courage, d'être rempli de foi et de se souvenir que le Seigneur a dit qu'il combattrait pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Que faisons-nous pour mériter une telle défense? Nous devons chercher diligemment, prier toujours et croire. Puis tout concourra à notre bien si nous marchons en droiture et nous souvenons de l'alliance que nous avons contractée. Les derniers jours ne sont pas un moment pour avoir peur et trembler. Cette époque est le moment de croire et de nous souvenir de nos alliances. J'ai parlé brièvement de l'aide céleste, d'anges envoyés pour nous bénir lorsque nous en avons besoin. Mais lorsque nous parlons des personnes qui sont des instruments entre les mains de Dieu, nous nous souvenons que tous les anges ne se trouvent pas de l'autre côté du voile. Nous marchons et parlons avec certains d'entre eux ici, maintenant et chaque jour. Certains d'entre eux habitent dans notre quartier. Certains d'entre eux nous ont donné naissance. Et dans mon cas, l'un d'entre eux a accepté de m'épouser. En fait, les cieux ne nous paraissent jamais si proches que quand nous voyons l'amour de Dieu manifesté dans la bonté et le dévouement de personnes si bonnes et si pures que le mot « angélique » est le seul qui nous vienne à l'esprit. Dans cet ordre d'idées, Frère Dunn, il y a 45 minutes, nous en a donné une idée. Pourquoi pas? Quand on voit le visage de ces enfants et que nous sommes impressionnés par l'esprit, cela me rappelle une histoire de mon ami et collègue de l'université Brigham Young, Clint D. Barus, qui est maintenant décédé. Je le fais avec la permission de sa femme, Marilyn, et de leurs enfants. Parlant de son enfance, dans une grande ferme d'Idaho, Frère Barus a raconté qu'il devait rassembler les vaches tous les soirs à l'heure de la traite. Les vaches paissaient dans un champ bordé de la rivière Teton, qui est souvent très dangereuse. Dans la famille Barus, les enfants avaient donc pour règle stricte de ne jamais traverser la rivière au printemps pour aller chercher une vache qui s'était aventurée au-delà. Ils devaient toujours rentrer à la maison pour demander l'aide d'un adulte. Un samedi, juste après le 7e anniversaire de Frère Barus, ses parents ont promis aux enfants d'aller au cinéma si les travaux de la ferme étaient faits à temps. Lorsque le jeune Clint est arrivé dans le pré, les vaches qu'il cherchait avaient traversé la rivière, qui pourtant était très haute. Sachant que sa rare soirée au cinéma était compromise, il a décidé d'aller chercher les vaches lui-même, bien qu'on lui ait interdit de nombreuses fois de le faire. Quand ce garçon de 7 ans a fait avancer son cheval Banner dans le courant froid et rapide, la tête du cheval sortait à peine de l'eau. Assis sur le cheval, un adulte aurait été en sécurité. Mais à son jeune âge, Frère Barus était complètement recouvert par le courant, à part quand le cheval faisait des bonds en avant, ce qui permettait à Clean d'avoir la tête suffisamment hors de l'eau pour reprendre de l'air. Je le cite en ses propres mots. Quand Banner a finalement grimpé sur l'autre rive, je me suis rendu compte que j'avais couru un grave danger et que j'avais fait une chose terrible. J'avais délibérément désobéi à mon père. J'ai pensé que je ne pourrais me racheter que si je ramenais les vaches saines et sauves à la ferme. Mon père pourrait peut-être alors me pardonner. mais il faisait déjà sombre et je n'étais pas sûr d'où j'étais. Le désespoir m'a envahi. J'étais mouillé et j'avais froid. J'étais perdu et j'avais peur. Je suis descendu du bon vieux banner. Je suis tombé près de ses pattes et je me suis mis à pleurer. Entre de gros sanglots, j'ai essayé de faire une prière. Je répétais à mon Père Céleste, « Je suis désolé, pardonne-moi. Je suis désolé, pardonne-moi. » J'ai prié longtemps. Lorsque j'ai fini par lever la tête, j'ai vu, à travers mes larmes, une silhouette vêtue de blanc qui marchait dans ma direction. Dans le noir, j'étais sûr que c'était un ange envoyé pour répondre à mes prières. Tandis que la silhouette approchait, je n'ai fait aucun mouvement ni aucun bruit, tant j'étais ébahi de ce que je voyais. Le Seigneur m'envoyait-il vraiment un ange alors que j'avais été si désobéissant? Une voix bien connue m'a alors dit, « Mon fils, je te cherchais. » Dans la nuit, j'ai reconnu la voix de mon père et j'ai couru dans ses bras ouverts. Il m'a serré bien fort et m'a dit gentiment, « J'étais inquiet. Je suis content de t'avoir trouvé. » J'ai essayé de lui dire à quel point j'étais navré, mais seules des paroles décousues sont sorties de mes lèvres tremblantes. « Merci. Noir. Peur. Rivière. Sol. » Plus tard dans la soirée, j'ai appris que, ne me voyant pas revenir du pré, mon père était parti me chercher. N'ayant trouvé ni les vaches, ni moi, il avait su que j'avais traversé la rivière et que j'étais en danger. Comme il faisait nuit et que le temps pressait, il avait retiré ses vêtements jusqu'à son long sous-vêtement blanc thermique, avait attaché ses chaussures à son cou et avait traversé la rivière dangereuse à la nage pour porter secours à son fils désobéissant. Mes frères et sœurs bien-aimés, je témoigne qu'il y a des anges, aussi bien célestes que mortels. Ce faisant, je témoigne que Dieu ne nous laisse jamais seuls ou sans aide dans les difficultés que nous rencontrons. Et il ne le fera pas aussi longtemps que le temps durera, ou que la terre demeurera, ou qu'il y aura à la surface de la terre un seul homme, une seule femme ou un seul enfant à sauver. Certains événements mondiaux ou personnels peuvent nous donner le sentiment d'être loin de Dieu, exclu des cieux, perdu et seul dans un endroit sombre et désolé. Souvent, cette souffrance peut résulter de nos propres actions. Mais même alors, notre Père à tous veille et nous aide. Et il y a toujours des anges qui vont et viennent tout autour de nous, des anges visibles et invisibles, connus ou non, mortels ou immortels. Puissions-nous tous croire plus facilement la promesse suivante du Seigneur et en être plus reconnaissants dans une des écritures favorites du président Monson. « J'irai devant ta face, je serai à ta droite et à ta gauche. Mon esprit sera dans ton cœur et mes anges seront tout autour de toi pour te soutenir. » En priant pour que ces anges nous aident, puissions-nous tous essayer d'être plus angéliques nous-mêmes, d'avoir un mot gentil, un bras fort, une déclaration de foi et l'alliance que nous avons faite. Peut-être pourrons-nous alors être des émissaires de Dieu lorsque quelqu'un criera, peut-être un enfant de la primaire, en pleurant, noir, peur, rivière, seul. Je prie pour cela, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
The choir,
le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter avec une plus grande foi qui fait du magnifique témoignage de Frère Holland. Apprends-moi à marcher dans la clarté. Après ce chant, Gerald Cossé et Laurence Corbridge, des 70, nous adresserons la parole et seront suivis de Todd Christofferson du Collège des 12 apôtres. Apprends-moi à marcher dans la clarté.
This is the 178th semi-annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Les parents sont souvent pris de court par les réponses inattendues de leurs enfants aux questions des grandes personnes. Un soir, alors que nous étions absents, ma femme et moi, la babysitter de nos enfants, intriguée par la prière que ceux-ci réclamaient, leur posa la question suivante. « Mais quelle est la différence entre votre religion et la mienne ?» La réponse de ma fille de 8 ans fut instantanée. C'est presque pareil, sauf que chez nous, on apprend beaucoup plus de choses. Loin de vouloir heurter sa babysitter, ma petite fille avait voulu souligner à sa façon l'importance que les saints des derniers jours attachent à la recherche de la connaissance. Joseph Smith a déclaré « Il est impossible à un homme d'être sauvé dans l'ignorance. » Il a ajouté « Le principe de connaissance est le principe de salut, et quiconque n'obtient pas suffisamment de connaissances pour être sauvé, sera condamné. Cette connaissance est fondée sur la compréhension de la nature de Dieu et de Jésus-Christ et du plan de salut qu'ils ont préparé pour nous permettre de revenir en leur présence. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le principe de connaissance a souvent été mal interprété par les hommes. L'intelligence de Dieu surpasse tout ce que nous ne pourrons jamais comprendre avec nos capacités intellectuelles. L'homme peut parfois comprendre qu'il faut chercher Dieu dans des concepts intellectuellement compliqués. Cependant, notre Père Céleste se met toujours à notre portée. Il s'adapte à notre degré de compréhension. S'il vient vers un petit enfant, il s'adaptera lui-même au langage et à la capacité d'un petit enfant. Dieu serait bien injuste si l'Évangile n'était accessible qu'à une élite intellectuelle. Dans sa bonté, il a fait en sorte de rendre les vérités divines compréhensibles pour tous ses enfants, quel que soit leur niveau d'éducation ou leurs facultés intellectuelles. En réalité, le fait qu'un principe peut être compris même par un enfant est une preuve de sa force. John Taylor, ancien président de l'Église, a dit « La véritable intelligence consiste à prendre un sujet qui est intrinsèquement mystérieux et grandiose et à le développer et le simplifier de telle sorte qu'un enfant peut le comprendre. » Loin de diminuer sa portée, la pureté et la simplicité de l'expression permettent au Saint-Esprit de témoigner plus sûrement dans le cœur des hommes. Pendant son ministère terrestre, Jésus a sans cesse opposé la simplicité et l'authenticité de ses enseignements à la logique tortueuse des pharisiens et autres docteurs de la loi. Ceux-ci essayèrent maintes fois de l'éprouver, en lui posant des questions sophistiquées. Mais ses réponses restaient toujours limpides et compréhensibles par un enfant. Un jour, les disciples de Jésus lui posèrent la question suivante. « Qui est donc le plus grand dans le royaume de Dieu ?» Jésus, ayant fait venir un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » À un autre moment, Jésus dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » La Bible a probablement fait l'objet de plus d'interprétations et de débats philosophiques que n'importe quel autre livre. Pourtant, un enfant qui lira ce livre pour la première fois aura au moins autant, si ce n'est plus de chances, d'en comprendre la doctrine que la plupart des exégètes. À 8 ans, un enfant devra avoir suffisamment de compréhension pour entrer dans les eaux du baptême et contracter une alliance avec Dieu, en toute connaissance de cause. Que comprendrait un enfant en lisant l'histoire du baptême de Jésus ? Jésus est baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit descend sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Une voix se fait entendre. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » L'enfant aura une vision claire de ce qu'est la divinité. Trois personnages distincts et pourtant pleinement unis. Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Le refus du principe de simplicité et de clarté a été à l'origine de bien des apostasies, tant collectives que personnelles. Dans le livre de Mormon, le prophète Jacob dénonce ceux qui méprisaient les paroles claires et tuaient les prophètes, et recherchaient les choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi, à cause de leur aveuglement, aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà du point marqué, ils devaient nécessairement tomber. Car Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils l'ont désiré. Parfois, nous pouvons être tentés de penser « c'est trop simple ». Tout comme Naaman, ce capitaine syrien qui, contraint par sa fierté, hésita à obéir au conseil d'Élisée, trop simple à ses yeux, pour guérir sa lèpre. Ses serviteurs l'amenèrent à se rendre compte de sa folie. « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair de jeune enfant, et il fut pur. Sa purification ne fut pas seulement physique. Sa chair spirituelle fut aussi purifiée quand il accepta cette belle leçon d'humilité. Les petits-enfants possèdent de merveilleuses dispositions pour l'apprentissage. Ils ont une confiance totale envers leur éducateur, un esprit pur et une grande humilité. Or, ces qualités sont celles-là même qui ouvrent la porte au Saint-Esprit. Celui-ci est le canal par lequel nous acquérons la connaissance des choses spirituelles. Paul a écrit aux Corinthiens. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et il ajoute, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. » Nous savons que cet homme animal ou naturel est ennemi de Dieu, à moins qu'il ne se rende aux persuasions de l'Esprit-Saint. Pour cela, il doit devenir semblable à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger, tout comme un enfant se soumet à son père. Dans son conte philosophique, Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry décrit le désarroi d'un petit garçon qui, découvrant pour la première fois un champ de roses, s'aperçoit que la fleur qu'il possède et dont il s'occupe avec amour n'est pas unique, mais bien ordinaire. Puis il finit par comprendre que ce qui fait l'unicité de sa rose n'est pas son apparence, mais bien le temps et l'amour qu'il a consacré à en prendre soin. Il s'exclame : Les hommes cultivent 5 000 roses dans un même jardin, et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose et un peu d'eau. Mais les yeux sont aveugles. Il faut chercher avec le cœur. De la même façon, notre connaissance de Dieu ne dépend pas de la quantité de savoir que nous accumulons. Après tout, toutes les connaissances sur l'Évangile utile à notre salut peuvent être résumées en quelques points de doctrine, principes et commandements essentiels qui sont déjà présents dans les leçons missionnaires reçues avant le baptême. Connaître Dieu, c'est au contraire ouvrir notre cœur pour acquérir une compréhension spirituelle et un témoignage fervent de la vérité de ces quelques points de doctrine fondamentaux. Connaître Dieu, c'est avoir le témoignage de son existence et ressentir avec son cœur qu'il nous aime. C'est accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et avoir le désir fervent de suivre son exemple. En servant Dieu et notre prochain, nous témoignons du Christ et permettons aux personnes qui nous entourent de mieux le connaître. Ces principes trouvent une application concrète dans l'enseignement qui est dispensé dans nos paroisses et branches. Pour vous, les instructeurs de l'Église, le but principal de vos leçons est la conversion des cœurs. La qualité d'une leçon ne se mesure pas à la somme de savoirs nouveaux que vous apportez à vos élèves. Elle résulte de votre capacité de susciter la présence de l'Esprit et d'inciter vos élèves à prendre des engagements. C'est en exerçant leur foi et en mettant en pratique les principes enseignés que ceux-ci augmenteront leur connaissance spirituelle. Je prie pour que nous sachions ouvrir notre cœur, tel un petit enfant, et prendre plaisir à écouter et à pratiquer la parole de Dieu dans toute la force de sa simplicité. Je témoigne que ce faisant, nous acquérons la connaissance des mystères de Dieu et des choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. I pray that we will know how to open our hearts like a little child and take pleasure in hearing and practicing the word of God in all the power of its simplicity. I bear testimony that if we do this, we will gain the knowledge of the mysteries of God and the peaceable things, that which bring us joy, that which bring us life eternal. In the name of Jesus Christ, amen.
In the beginning,
au commencement, était la parole,
et la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il a dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le Christ le Seigneur. Oui, je le suis, le commencement et la fin, le rédempteur du monde. » Il a dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Il a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est le chemin. Il est la lumière et la vie, le pain et l'eau, le commencement et la fin, la résurrection et la vie, le sauveur du monde, la vérité et le chemin. Un seul chemin mène au bonheur et à la plénitude. Il est le chemin. Un autre chemin, tout autre chemin, n'importe quel autre chemin, n'est que folie. Il offre un puits d'eau vive. Soit nous buvons et nous n'aurons plus jamais soif, soit nous refusons et nous continuerons à souffrir sottement de la soif. Il est le pain de vie. Soit nous en mangeons et nous n'aurons plus jamais faim, soit nous refusons et nous continuerons sottement à avoir faim. Il est la lumière du monde. Soit nous le suivons et nous verrons clairement, soit nous refusons et nous demeurerons sottement aveugles et dans les ténèbres. Il est la résurrection et la vie. Il a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Soit nous suivons ce qu'il enseigne et nous serons dans l'abondance, soit nous refusons et nous resterons sottement morts. Il est le Sauveur du monde. Soit nous acceptons les bénédictions de son expiation et nous sommes lavés de nos péchés et purifiés, rendus dignes de recevoir son Esprit, soit nous refusons et nous restons sottement seuls et impurs. Il est le chemin. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ, et au Saint-Esprit. Le plan du Père a été accepté et accompli par le Fils pour que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Ce qui est vrai pour le Père est vrai pour le Fils également. Il a dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu seul peut nous soutenir. Lui seul peut faire battre notre cœur et nous donner le souffle de vie. Lui seul peut nous préserver, nous protéger, Lui seul peut nous donner la force de supporter les fardeaux de la vie. Lui seul peut nous donner du pouvoir, de la connaissance, de la paix, de la joie. Lui seul peut pardonner nos péchés. Lui seul peut nous guérir. Lui seul peut nous changer et nous façonner une âme divine. Lui seul peut nous ramener en présence du Père. Et il accomplira tout cela, et plus encore, du moment que nous nous souvenons de lui et que nous gardons ses commandements. Par conséquent, que devons-nous faire? Nous devons nous souvenir de lui et garder ses commandements. C'est la seule chose intelligente à faire. Jean-Baptiste a dit qu'il baptisait d'eau, mais que Jésus était venu pour baptiser d'Esprit Saint. Dans cette vie, rien n'a plus de valeur que le don divin du Saint-Esprit. Il est la source de la joie, du bonheur, de la paix, de la connaissance, de la force, de la confiance et de tout ce qui est bon. Il est le pouvoir qui peut nous changer et nous rendre forts dans nos faiblesses. Il est le pouvoir par lequel le Seigneur se manifeste à ceux qui croient en lui. Recevoir et garder le pouvoir du Saint-Esprit dans notre vie nous permettra d'accéder à tout ce qui est bon. C'est là-dessus que tout repose. C'est dans ce but que Jésus-Christ s'est rendu dans un jardin appelé Gethsémané, où il a vaincu le péché pour nous. Il a pris nos péchés sur lui. Il a été châtié pour nos fautes. Il a payé le prix de notre apprentissage. Je ne sais pas comment il l'a fait. Je sais seulement qu'il l'a fait. Et grâce à cela, vous et moi pouvons recevoir le pardon de nos péchés et être dotés de son pouvoir. Par conséquent, que devons-nous faire? Nous devons prendre sur nous le nom du Fils, toujours nous souvenir de lui et garder les commandements qu'il nous a donnés, afin de toujours avoir son Esprit avec nous. C'est là-dessus que tout repose. Une des philosophies des hommes les plus populaires et les plus séduisantes nous dit « Vivez votre vie comme vous l'entendez, faites ce que vous voulez, soyez vous-même. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire. » Mais le Seigneur a dit « Je suis le chemin. » Il a dit « Suivez-moi. » Il a dit « Quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. » Nous pourrions commettre l'erreur de croire que nous ne pouvons pas réellement le suivre parce que l'exemple qu'il a donné dans sa vie est si incroyablement élevé qu'il nous semble hors d'atteinte. Nous pourrions penser que c'est trop difficile, trop exigeant et au-delà de nos capacités, du moins pour l'instant. Ne croyez pas cela. Bien que les principes du Seigneur soient les plus élevés, ne pensez jamais qu'ils ne peuvent être atteints que par une minorité de personnes particulièrement capables. Dans ce cas particulier, l'expérience de la vie nous induit en erreur. Notre expérience ici sur Terre nous enseigne que dans tous les domaines de l'activité humaine, les plus grands succès sont toujours très difficiles à obtenir et par conséquent ne peuvent être atteints que par une élite. Plus le but est élevé, moins de personnes peuvent l'atteindre. Ce n'est pas le cas ici, parce que contrairement aux autres expériences de cette vie, il ne s'agit pas ici d'une activité humaine, mais plutôt de l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, et c'est sa gloire de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Rien ne peut lui être comparé, nulle part, à aucun moment. Aucune autre activité, institution, projet, programme ou système conçu par la main de l'homme ne peut prétendre au pouvoir rédempteur et transformateur de l'expiation de Jésus-Christ et au don du Saint-Esprit. Par conséquent, même si l'invitation du Christ à le suivre est la plus élevée de toutes, elle est également accessible à tous. Non pas parce que nous en sommes capables, mais parce qu'il l'est, lui, et qu'il peut nous en rendre capables également. Nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain tous vivants ou morts, peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Le chemin du Seigneur n'est pas difficile. La vie est difficile, pas l'Évangile. Il y a de l'opposition en toutes choses, partout et pour tout le monde. La vie est difficile pour nous tous, mais elle est également simple. Nous avons seulement deux possibilités. Soit nous suivons le Seigneur et nous recevons son pouvoir, sa paix, sa lumière, sa force, sa connaissance, sa confiance, son aide, son amour et sa joie. Soit nous choisissons un autre chemin, n'importe quel autre chemin qu'il nous faudra parcourir seul, sans son soutien, sans son pouvoir, sans son aide, dans l'agitation, le doute, le chagrin et le désespoir. Je vous demande donc, quel est le chemin le plus facile? Le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » La vie est difficile, mais la vie est simple. Prenez le bon chemin et n'abandonnez jamais. Jamais, n'abandonnez jamais. Continuez à avancer, n'abandonnez pas, et vous y arriverez. Un seul chemin mène au bonheur et à la plénitude. Jésus-Christ est le chemin. Un autre chemin, tout autre chemin, n'importe quel autre chemin, n'est que folie. Je rends témoignage de lui, Jésus-Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant, le pain de vie, la vérité, la résurrection et la vie, le Sauveur et la lumière du monde. Il est le chemin, l'unique chemin. Je prie pour que nous ayons tous le bon sens de le suivre. En son saint nom, Jésus-Christ. Amen.
Joseph Smith, le prophète, a dit, l'édification de Sion est une cause à laquelle le peuple de Dieu s'est intéressé à toutes les époques. C'est un sujet sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont appesantis avec un plaisir particulier. Ils ont attendu avec impatience et allégresse les jours dans lesquels nous vivons. Et enflammés par une espérance et une joie céleste, ils ont chanté, écrit et prophétisé sur notre temps, mais sont morts avant de pouvoir le contempler de leur vivant. Nous sommes le peuple favorisé que Dieu a choisi pour accomplir la gloire des derniers jours. Sion est à la fois un endroit et un peuple. Sion est le nom qui a été donné à l'ancienne ville d'Enoch avant le déluge. Et il arriva que de son temps, il bâtit une ville qui fut appelée la ville de sainteté, Sion. Cette ville de Sion a duré 365 ans. Les Écritures déclarent, « Enoch et tout son peuple marchèrent avec Dieu, et Dieu demeura au milieu de Sion. Et il arriva que Sion ne fut plus, car Dieu l'a reçu dans son sein. » C'est de là que se répandit l'expression « Sion s'est enfui ». Plus tard, Jérusalem et son temple ont été appelés « Montagne de Sion » et les Écritures prédisent une nouvelle Jérusalem à venir, où le Christ règnera comme roi de Sion, quand la terre se reposera pendant 1000 ans. Le Seigneur a appelé le peuple d'Enoch Sion, parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'ils demeuraient dans la justice, et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Ailleurs il dit, c'est là Sion, ceux qui ont le cœur pur. L'antithèse et l'antagoniste de Sion est Babylone. La ville de Babylone était originellement Babel, de la fameuse tour de Babel, qui est devenue par la suite la capitale de l'Empire babylonien. Son bâtiment principal était le temple de Bel ou Baal, l'idole dont les prophètes de l'Ancien Testament disaient qu'elle était la honte en raison des perversions sexuelles associées à son culte. Son matérialisme, son culte du mal et la captivité que Juda y a connue après avoir été conquis en 587 avant Jésus-Christ, tout cela concourt à faire de Babylone le symbole des sociétés décadentes et de l'esclavage spirituel. C'est avec cette toile de fond que le Seigneur a dit aux membres de son Église, « Sortez de Babylone, rassemblez-vous d'entre les nations des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. » Il a appelé les anciens de son Église à aller de par le monde pour accomplir ce rassemblement, commençant ainsi un effort qui se poursuit vigoureusement de nos jours. Et voici, tel sera leur cri, et la voix du Seigneur à tous les hommes. Allez au pays de Sion, pour que les frontières de mon peuple s'élargissent, et que ses pieux soient affermis, et que Sion puisse se répandre aux régions alentour. C'est pourquoi aujourd'hui le peuple du Seigneur se rassemble de toutes les nations dans les lieux de réunion et les pieux de Sion de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, dispersés parmi toutes les nations. Néphi a prédit que ses possessions seraient petites, mais que le pouvoir du Seigneur descendrait sur les saints de l'Église de l'Agneau, qui étaient dispersés sur toute la surface de la terre. Ils étaient armés de justice. Le Seigneur nous appelle à être des phares de justice, pour guider ceux qui recherchent la sécurité et les bénédictions de Sion. En vérité, je vous le dis à tous, levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations, et que le rassemblement au pays de Sion et dans ses pieux soit pour la défense, le refuge contre la tempête et contre la colère lorsqu'elle sera déversée sans mélange sur toute la terre. Sous la direction de Joseph Smith, le prophète, les premiers membres de l'Église ont essayé d'établir le centre de Sion au Missouri. Mais ils ne se sont pas qualifiés pour bâtir la ville sainte. Le Seigneur a donné une des raisons de l'échec de son peuple. Il n'a pas appris à obéir aux choses que j'ai exigées de sa part, mais il est rempli de toutes sortes de méchancetés. Ne donne pas, comme il convient à des saints, de ses biens aux pauvres et aux affligés en son sein. Il n'est pas uni selon l'union exigée par la loi du royaume céleste. Il y avait parmi eux des querelles, des disputes, des envies, des discordes et des désirs voluptueux et cupides. Ils ont souillé par ces choses leurs héritages. Cependant, plutôt que de juger trop durement ces premiers saints, nous devons nous examiner afin de voir si nous ne nous comportons pas. Qui nous comportons mieux. Sion est Sion, raison du caractère, des attributs et de la fidélité de ses concitoyens. Souvenez-vous, le Seigneur appela son peuple Sion, parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'il demeurait dans la justice, et il n'y avait pas de pauvres en son sein. Si nous voulons établir Sion dans nos foyers, dans nos branches, dans nos paroisses et dans nos pieux, nous devons nous élever à la hauteur de ces principes. Il sera nécessaire, premièrement, d'être unis d'un seul cœur et d'un seul esprit. Deuxièmement, de devenir un peuple saint individuellement et collectivement. Et troisièmement, de prendre soin des pauvres et des nécessiteux avec une telle efficacité que nous éliminerons la pauvreté de parmi nous. Nous ne pouvons attendre que Sion vienne pour que ces choses se produisent. Sion viendra seulement quand elles se produiront. En considérant l'unité requise pour que Sion s'épanouisse, nous devons nous demander si nous avons surmonté les querelles, les disputes, les envies et les discordes. Individuellement et en tant que peuple, sommes-nous exempts de discordes et de disputes et unis selon l'union exigée par la loi du royaume céleste? Le pardon mutuel est essentiel à cette unité. Jésus a dit, « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous il est requis de pardonner à tous les hommes. » Nous deviendrons d'un seul cœur et d'un seul esprit quand nous placerons individuellement le Sauveur au centre de notre vie et que nous suivrons ceux qu'il a désignés pour nous diriger. Nous pouvons nous unir au président Monson dans l'amour et le souci mutuel. Lors de la conférence d'avril dernier, il a parlé à ceux qui se sont écartés de l'Église, ainsi qu'à nous tous, quand il a dit, je cite, « Dans le sanctuaire privé de notre conscience se trouve l'esprit, la volonté de nous débarrasser du vieil homme et de nous montrer à la hauteur de notre vrai potentiel. Dans cet esprit, nous lançons de nouveau cette invitation sincère. Revenez. Nous vous tendons la main dans l'amour pur du Christ et exprimons notre désir de vous aider et de vous accueillir comme membre à part entière. Nous disons à ceux dont l'esprit est blessé ou qui se débattent dans les problèmes et la crainte, laissez-nous vous aider, vous réconforter et apaiser vos craintes. » Fin de citation. Fin juillet de cette année, des jeunes adultes seuls de plusieurs pays d'Europe de l'Est se sont réunis près de Budapest, en Hongrie, pour participer à une conférence. 20 jeunes gens et jeunes filles de Moldavie qui avaient passé plusieurs jours à obtenir leur passeport et le visa et plus de 30 heures à voyager en autobus pour se rendre à cette conférence se sont joints à ce groupe. Le programme de la conférence comportait une quinzaine d'ateliers. Chaque personne devait en choisir deux ou trois auxquels il désirait le plus assister. Plutôt que de se concentrer uniquement sur leurs propres intérêts, ces jeunes adultes moldaves ont décidé de s'organiser pour qu'au moins une personne de leur groupe soit dans chaque classe et prenne des notes détaillées. Puis ils partageraient ce qu'ils avaient appris les uns avec les autres et plus tard avec les jeunes adultes moldaves qui n'avaient pas pu participer. Dans sa forme la plus simple, ceci illustre l'unité et l'amour mutuel qui, multipliés des milliers de fois de différentes façons, ramèneront Sion. La plus grande partie de ce qui doit être fait pour établir Sion réside dans nos efforts individuels pour devenir ceux qui ont le cœur pur. Sion ne peut être édifié que sur les principes de la loi du royaume céleste, a dit le Seigneur. Autrement, je ne puis la recevoir en moi. La loi du royaume céleste est, bien sûr, la loi de l'Évangile et des alliances qui inclut que nous nous souvenions constamment du Sauveur et de notre promesse d'obéissance, de sacrifice, de consécration et de fidélité. Le Sauveur s'est montré critique envers certains des premiers saints pour leurs désirs voluptueux. Ces personnes vivaient dans un monde sans télévision, sans film, sans Internet, sans iPod, dans un monde maintenant inondé d'images et de musique empreintes de sexualité, sommes-nous à l'abri des désirs voluptueux et de leur cortège de mots? Plutôt que de repousser les limites de la pudeur dans l'habillement ou de nous livrer à l'immoralité par procuration de la pornographie, nous devons avoir faim et soif de justice. Pour venir à Sion, il ne suffit pas que vous et moi soyons un peu moins méchants que les autres. Nous ne devons pas seulement devenir des hommes et des femmes bons, mais aussi des saints. Pour reprendre la formule de Neil A. Maxwell, établissons une bonne fois pour toutes nos résidences en Sion et renonçons à notre résidence secondaire à Babylone. Tout au long de l'histoire, le Seigneur a évalué les sociétés et les individus en fonction du soin qu'il prenait des pauvres. Il a dit, car la terre est pleine, et il y a assez, même en réserve. Oui, j'ai tout préparé, et j'ai donné aux enfants des hommes d'agir par eux-mêmes. C'est pourquoi si quelqu'un prend de l'abondance que j'ai faite, et ne donne pour sa part, pas sa part, selon la loi de mon évangile, aux pauvres et aux nécessiteux, il lèvera avec les méchants les yeux en enfer, en proie au tourment. De plus, il déclare, dans vos choses temporelles, vous serez égaux, et ce, pas à contre-cœur, autrement l'abondance des manifestations d'esprit sera refusée. Nous sommes maîtres de ce que nous faisons, de nos moyens, de nos ressources, mais nous rendons compte à Dieu de cette intendance sur les choses terrestres. C'est un plaisir de voir votre générosité quand vous contribuez aux offrandes de jeûnes et aux projets humanitaires. Au fil des années, la souffrance de millions de personnes a été soulagée et d'innombrables autres ont pu améliorer leurs conditions de vie grâce à la générosité des saints. Néanmoins, tout en militant pour la cause de Sion, chacun de nous doit se demander, dans un esprit de prière, s'il fait ce qu'il doit et tout ce qu'il doit aux yeux du Seigneur en ce qui concerne les pauvres et les nécessiteux. Nous qui sommes nombreux à vivre dans des sociétés qui vouent un culte aux biens matériels et aux plaisirs, nous pouvons nous demander si nous restons à l'égard de la cupidité, à l'écart de la cupidité et du désir d'acquérir de plus en plus de biens de ce monde. Le matérialisme n'est qu'une manifestation supplémentaire de l'idolâtrie et de l'orgueil qui caractérise Babylone. Peut-être pouvons-nous nous contenter de ce qui suffit à nos besoins. L'apôtre Paul a mis Timothée en garde contre les personnes qui supposent, je cite, que la piété est une source de gain. Fin de citation. Il a dit, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Dans la plupart des endroits du monde, nous entrons dans une période de troubles économiques. Veillons les uns sur les autres du mieux que nous le pouvons. Je me souviens de l'histoire d'une famille vietnamienne qui a fui Saigon en 1975 et s'est retrouvée à vivre dans un petit mobile home à Provo, en Utah. Un jeune homme de cette famille de réfugiés devint le compagnon de visite au foyer d'un certain frère Johnson qui vivait près de là avec sa grande famille. Ce garçon raconte ce qui suit. Un jour, frère Johnson a remarqué que nous n'avions pas de table de cuisine. Le lendemain, il a apporté une table bizarre, mais très pratique, qui se logeait très bien contre la paroi du mobile home, opposée à l'évier et au plan de travail de la cuisine. Je dis bizarre parce que deux pieds de cette table étaient assortis à la table et les deux autres pas. De même, plusieurs petites chevilles de bois ressortaient d'un bord du plateau usé. Nous avons bien vite utilisé cette table unique pour préparer la nourriture et pour manger des repas sur le pouce. Nous mangeons encore nos repas en famille assis sur le sol, à la mode vietnamienne. Un soir, j'étais dans l'entrée chez frère Johnson et je l'attendais avant un rendez-vous dans mon foyer. Là, dans la cuisine à côté, j'ai eu la surprise de constater la présence d'une table presque identique à celle qu'il avait donnée à ma famille. La seule différence était que là où notre table avait des chevilles, celle de Johnson avait des trous. J'ai alors compris, en voyant que nous en avions besoin, cet homme charitable avait coupé sa table de cuisine en deux et avait fabriqué deux nouveaux pieds pour chaque moitié. Il était évident que les Johnson ne pouvaient pas tous prendre place autour de cette petite table, et peut-être qu'ils n'étaient pas à l'aise quand elle était entière. Toute ma vie, cette marque de gentillesse a été un grand rappel de ce que signifie véritablement donner. Le prophète Joseph Smith a dit, notre plus grand but devrait être l'édification de Sion. Dans nos familles, dans nos pieux, cherchons, et nos districts, cherchons à établir la cause de Sion par l'unité, la piété et la charité. Nous préparons pour ce grand jour où Sion, la nouvelle Jérusalem, se lèvera. Pour le dire comme notre cantique, Israël, ton Dieu t'appelle à sortir de ton exil. Babylone enfin chancelle, son état est faible et vil. Viens à Sion, belle et sainte, pour échapper au péril. Viens à Sion, belle et sainte, pour échapper au péril. Je rends témoignage de Jésus-Christ, le roi de Sion, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera à 18h, heure de Salt Lake City, au centre de conférence. La diffusion nationale de l'émission du Cœur de Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous remercions le Cœur de la primaire de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi. Le dernier orateur de cette session sera Ad Bednar du Collège des 12 apôtres. Après que la primaire a chanté « J'aime voir le temple ». Après son discours, le chœur chantera « Seigneur, merci pour le prophète ». Don R. Clark, des 70, fera ensuite la prière de clôture.
Mon message dans la dernière conférence générale était basé sur un principe de l'Évangile. Demandez avec foi, en prière. Aujourd'hui, je vais parler de trois principes supplémentaires qui peuvent nous aider à faire des prières plus efficaces. Et je prie pour que le Saint-Esprit nous aide, vous et moi. Premier principe, la prière devient plus efficace quand nous consultons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Plus simplement, la prière est une communication vers notre Père Céleste de ses fils et filles sur la terre. Dès que nous apprenons qui nous sommes véritablement vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants, la prière devient naturelle et instinctive pour nous. Il nous est commandé de prier toujours le Père au nom du Fils. Il nous est promis que si nous prions sincèrement pour quelque chose de bien, bon et en accord avec la volonté de Dieu, nous pouvons être bénis, protégés et guidés. La révélation est une communication de notre Père Céleste à ses enfants sur la terre. Si nous demandons avec foi, nous pouvons recevoir révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, et connaître les mystères et les choses paisibles qui apportent la joie et la vie éternelle. Les mystères sont les choses qu'on ne peut connaître et comprendre que par le pouvoir du Saint-Esprit. Les révélations du Père et du Fils sont transmises par le troisième membre de la divinité, le Saint-Esprit. Il est le témoin et le messager du Père et du Fils. La manière dont Dieu a créé la terre peut nous aider à comprendre comment faire des prières efficaces. Dans le troisième chapitre du livre de Moïse, nous apprenons que tout a été créé spirituellement avant d'être naturellement sur la terre. Et maintenant, voici, je te dis que ce sont là les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés, lorsque moi, le Seigneur Dieu, je fis le ciel et la terre. Et chaque plante des champs avant qu'elle fût sur la terre, et chaque herbe des champs avant qu'elle crût. Car moi, le Seigneur Dieu, je crée spirituellement toutes les choses dont j'ai parlé avant qu'elles fussent naturellement sur la surface de la terre. Ces versets nous apprennent que la création spirituelle a précédé la création temporelle. De la même manière, une prière efficace le matin est un élément important de la création spirituelle de chaque journée et précède la création temporelle ou l'exécution de la journée. Tout comme la création temporelle est liée à la création spirituelle et en est la suite, des prières efficaces matin et soir sont liées et sont la suite les unes des autres. Voici un exemple. Il peut y avoir dans notre personnalité, notre conduite ou concernant notre croissance spirituelle, des choses pour lesquelles nous avons besoin de consulter notre Père Céleste dans notre prière du matin. Après avoir remercié pour les bénédictions reçues, nous supplions de recevoir la compréhension, être guidés et être aidés pour faire ce que nous n'avons pas la force de faire seuls. Par exemple, en priant, nous pouvons réfléchir au moment où nous avons parlé durement ou de manière inconvenante aux personnes que nous aimons le plus. Reconnaître que nous savons que ce n'est pas bien, mais que nous n'agissons pas toujours en accord avec cette connaissance. Exprimer du remords pour nos faiblesses et pour notre manque d'efforts pour nous dépouiller de l'homme naturel. Décider de mener une vie plus semblable à celle du Sauveur. Supplier pour avoir plus de force pour faire mieux et pour devenir meilleur. Une telle prière est un élément déterminant de la préparation spirituelle de notre journée. Puis, durant la journée, nous gardons une prière au cœur pour avoir de l'aide et être guidés continuellement, comme Alma l'a indiqué, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Nous remarquons alors que, durant la journée, il y a des moments où nous aurions eu normalement tendance à parler durement ou à nous mettre en colère, mais nous ne l'avons pas fait. Nous discernons l'aide et la force divine, et nous reconnaissons humblement des réponses à notre prière. Et au moment où nous nous en rendons compte, nous faisons une prière de gratitude silencieuse. À la fin de notre journée, nous nous agenouillons à nouveau pour faire rapport à notre Père. Nous passons en revue les événements de la journée et nous exprimons des remerciements sincères pour les bénédictions et l'aide reçues. Nous nous repentons et avec l'aide de l'Esprit du Seigneur, nous voyons comment nous pourrons faire mieux et devenir meilleurs le lendemain. Ainsi, notre prière du soir découle de notre prière du matin et en est la suite. Et notre prière du soir est aussi une préparation pour une prière efficace le lendemain matin. Les prières du matin et du soir, et toutes les prières entre-temps, ne sont pas des événements sans lien et discrets, mais elles sont liées chaque jour et au fil des jours, des semaines, des mois et même des années. C'est en partie la manière dont nous accomplissons l'exhortation scripturaire de prier toujours. Ces prières efficaces ont un rôle décisif dans l'obtention des plus grandes bénédictions que Dieu tient en réserve pour ses enfants fidèles. La prière devient efficace quand nous nous souvenons de notre filiation avec la divinité et quand nous suivons cette exhortation. Invoque Dieu pour tout ton entretien. Oui, que toutes tes actions soient pour le Seigneur, et en quelque lieu que tu ailles, que ce soit dans le Seigneur. Oui, que toutes tes pensées soient dirigées vers le Seigneur. Oui, que les affections de ton cœur soient placées à jamais dans le Seigneur. Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. Deuxième principe, la prière devient plus efficace quand nous exprimons sincèrement notre gratitude. Pendant que nous servions à l'université Brigham Young, Idaho, ma femme et moi recevions fréquemment des autorités générales chez nous. Notre famille a appris une leçon importante sur la prière efficace en s'agenouillant pour prier un soir avec un membre du Collège des Douze. Au cours de la journée, nous avions appris la mort subite d'un ami très cher. Et notre désir immédiat avait été de prier pour le conjoint survivant et les enfants. Quand j'ai demandé à ma femme de faire la prière, le membre des douze, qui n'était pas au courant de ce décès, lui a gentiment suggéré de n'exprimer dans sa prière que de l'appréciation pour les bénédictions reçues et de ne rien demander. Son conseil était semblable aux instructions d'Alma aux membres de l'Église de son époque, de prier sans cesse et de rendre grâce en tout. Étant donné la tragédie inattendue, il nous avait initialement semblé plus urgent de demander des bénédictions pour nos amis que d'exprimer des remerciements. Ma femme a obéi avec foi à ce qui lui avait été demandé. Elle a remercié notre Père Céleste pour les moments importants et mémorables passés avec ce cher ami. Elle a exprimé une reconnaissance sincère pour le Saint-Esprit, le Consolateur, et pour les dons de l'Esprit qui nous permettent d'affronter l'adversité et de servir autrui. Et plus encore, elle a exprimé son appréciation pour le plan du salut, pour le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, pour sa résurrection, et pour les ordonnances et les alliances de l'Évangile rétablies qui permettront aux membres des familles d'être ensemble éternellement. Notre famille a tiré de cette expérience une grande leçon sur le pouvoir de la reconnaissance dans une prière pleine de sens. Grâce à cette prière et par cette prière, notre famille a reçu de l'inspiration sur plusieurs sujets que nous avions à l'esprit et dans le cœur. Nous avons appris que notre gratitude pour le plan du bonheur et pour la mission salvatrice du Sauveur apportait l'assurance nécessaire et renforçait notre confiance que tout irait bien pour nos chers amis. Nous avons aussi ressenti pour quelles choses nous devions prier et que nous devions demander avec foi. Les prières les plus efficaces et les plus spirituelles que j'ai vécues contenaient beaucoup de remerciements et peu ou pas de demandes. J'ai maintenant la bénédiction de prier avec des apôtres et des prophètes, et je vois chez ces dirigeants actuels de l'Église, du Sauveur, les caractéristiques que le capitaine Moroni décrit dans le Livre de Mormon. Ce sont des hommes dont le cœur se gonfle d'actions de grâce envers Dieu pour les nombreuses bénédictions qu'il confère à son peuple. Ils ne multiplient pas les paroles, car ce qu'ils doivent dire dans leur prière leur est donné, et ils sont remplis du désir de faire le bien. Les prières des prophètes sont comme celles des enfants dans leur simplicité et leur puissance, en raison de leur sincérité. En nous efforçant de faire des prières plus efficaces, nous devons nous souvenir qu'il n'y a rien qui offense autant Dieu ou allume autant sa colère que ceux qui ne confessent pas sa main en toutes choses et n'obéissent pas à ses commandements. Frères et sœurs, je vous propose que périodiquement, vous et moi fassions une prière uniquement de remerciement et de gratitude. ne demandons rien. Laissons simplement notre âme se réjouir et s'efforcer de communiquer notre gratitude avec toute l'énergie de notre cœur. Troisième principe, la prière devient plus efficace quand nous prions pour autrui avec une intention réelle et un cœur sincère. Supplier notre Père Céleste de nous accorder les bénédictions que nous voulons pour nous est bien et convenable. Mais prier sincèrement pour autrui, à la fois les gens que nous aimons et ceux qui ne peuvent s'empêcher de profiter de nous, est un élément important qui concourt à l'efficacité de la prière. Tout comme l'expression plus fréquente de notre gratitude dans nos prières élargit le conduit de la révélation, de même, prier pour autrui de toute l'énergie de notre âme augmente notre capacité d'entendre et de suivre la voie du Seigneur. L'exemple de Lehi dans le livre de Mormon nous apprend une leçon essentielle. Lehi a suivi avec foi les instructions et les avertissements prophétiques concernant la destruction de Jérusalem. Il a ensuite prié le Seigneur de tout son cœur, en faveur de son peuple. En réponse à sa prière fervente, Lehi a eu la bénédiction de recevoir une vision glorieuse de Dieu et de son Fils et de la destruction imminente de Jérusalem. Il s'est alors réjoui et son cœur tout entier était rempli à cause de ce que le Seigneur lui avait montré. Remarquez que la vision lui a été donnée en réponse à une prière en faveur d'autrui et pas comme résultat d'une demande d'être édifié ou guidé personnellement. Le Sauveur a donné l'exemple parfait de la prière en faveur d'autrui avec une intention réelle. Dans la grande prière d'intercession qu'il a faite la nuit précédant sa crucifixion, Jésus a prié pour ses apôtres et pour tous les saints. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Durant le ministère du Sauveur sur le continent américain, il a demandé aux gens de réfléchir à ses enseignements et de prier pour les comprendre. Il a guéri des malades et il a prié pour les gens dans un langage qui ne pouvait pas être écrit. L'impact de sa prière était si profond que nul ne peut concevoir la joie qui remplit l'âme de ces gens lorsqu'ils l'entendirent prier le Père pour eux. Frères et sœurs, imaginez ce que cela serait d'entendre le Sauveur du monde prier pour nous. Est-ce que notre conjoint, nos enfants et les autres membres de notre famille ressentent aussi le pouvoir des prières que nous adressons au Père pour leurs besoins et leurs aspirations spécifiques? Est-ce que les personnes que nous servons nous entendent prier pour elles avec foi et sincérité? Si les gens que nous aimons et que nous servons n'ont pas entendu nos prières sincères en leur faveur et n'en ont pas ressenti l'influence, il est alors temps de nous repentir. Si nous suivons l'exemple du Sauveur, nos prières deviendront véritablement plus efficaces. Il nous est commandé de prier toujours à haute voix aussi bien que dans notre cœur, devant le monde aussi bien qu'en secret, en public aussi bien qu'en privé. Je témoigne que la prière devient plus efficace quand nous consultons le Seigneur pour toutes nos actions, quand nous exprimons sincèrement notre gratitude et quand nous prions pour autrui avec une intention réelle et d'un cœur sincère. Je témoigne que notre Père Céleste vit et qu'il entend toutes les prières sincères et y répond. Jésus est le Christ, notre Sauveur et Médiateur. La révélation est réelle. La plénitude de l'Évangile a été rétablie sur la terre dans notre dispensation. J'en témoigne au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father,
notre bon et cher Père Céleste, en cette occasion sacrée, nous venons vers toi avec notre gratitude dans le cœur pour ton Fils Jésus-Christ, pour son expiation et pour ce qu'il signifie pour nous individuellement. Nous t'exprimons notre appréciation pour avoir un prophète présent à Thomas Manson, pour ses conseillers, frère Eyring et frère Uchtdorf, et pour le Collège des Douze Apôtres. Nous sommes reconnaissants ce jour pour l'occasion que nous avons eue de lever la main pour les soutenir. Et puissions-nous montrer par nos actions que ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous exprimons notre gratitude pour ce que nous avons ressenti aujourd'hui. Nous exprimons notre gratitude pour les réponses à nos prières. Nous savons que les messages qui ont été donnés sont vraiment venus à une époque de grand besoin parmi les saints. Et nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons ressenti et entendu. Nous exprimons aussi notre reconnaissance pour nos familles. Car nous savons ce que c'est que d'avoir une famille, l'importance de nous soutenir les uns les autres dans ces périodes difficiles. Et nous sommes reconnaissants des familles éternelles et des ordonnances. Nous exprimons l'appréciation pour ce cœur magnifique qu'il a chanté pour nous, pour cette génération magnifique de jeunes qui ont été préservés, préparés pour cette époque. Puissions-nous les aider, les soutenir, les protéger. Nous te demandons de bénir ceux qui sont dans le besoin de tant de façons. Bénis-nous afin que nous puissions être une bonne influence pour encourager, pour aider. Et que nos vies puissent être centrées sur toi et sur la doctrine de ton royaume. Nous te demandons une bénédiction spéciale sur notre prophète et sur son épouse et pour tous ceux qui ont besoin, des besoins particuliers. Nous disons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 178th Semiannual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from general authorities.
On a assisté à la 170e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ à l'année du jour. Les orateurs ont été choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur de la primaire de Caseville et Foot Heights en Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.